Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. Dominique Tapie est l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. Politique, showbiz, football et les dettes incroyables. La femme de Bernard Tapie se confie comme jamais sur les secrets de son mari. Les Français ont répondu présent à la collecte de dons des Restos du Cœur. Près de 9000 tonnes collectées. 170 millions de repas vont être distribués cette année. Dans les bénéficiaires, 120 000 bébés. Le président des Restos est mon invité. Ils nous ont fait rêver pendant le tournoi des Six Nations. La Coupe du Monde de rugby arrive dans quelques mois. Gaël Ficou est le capitaine de la défense de l'équipe de France de rugby. Il est mon invité dans Focus Dimanche. La justice restaurative. Vous ne savez pas ce que c'est. Et pourtant, la fin de ce Focus Dimanche, vous allez peut-être vouloir y faire appel. C'est dans quelques secondes. Mercredi dernier, Le Monde célébrait la journée internationale de l'eau avec des sécheresses qui touchent toute la planète et désormais la France. Vous allez découvrir l'histoire incroyable de Christelle Pernet. Grâce à cette femme, 100 000 personnes bénéficient de l'eau potable en Afrique. A tout de suite sur RTL.
Focus dimanche,
Mohamed Bouafsi.
C'était l'amour de sa vie, son grand amour. Depuis sa mort en octobre 2021, Bernard Tapie laisse derrière lui sa femme Dominique Tapie, endettée. Pour se souvenir, elle sort cette semaine un livre, Bernard, La fureur de vivre, un livre poignant aux éditions de l'Observatoire. Elle est mon invitée exceptionnelle dans Focus Dimanche. Bonjour Dominique Tapie.
Bonjour Mohamed.
Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer le destin de cet homme, mais le destin d'un duo, plutôt le destin d'un couple. Vous avez résisté à votre mari toute votre vie. Il vous aura fallu 17 ans pour l'épouser.
Pour lui dire oui.
Pour lui dire oui. Au départ, ça n'a pas été simple de dire oui à Bernard Tapie.
Non, c'était pas simple parce que c'était un homme exceptionnel et plein de paradoxes. Il a fallu comprendre sa manière de fonctionner. Et pour moi, c'était un apprentissage.
Quand vous le rencontrez, vous êtes en couple? Il est en couple?
Quand je le rencontre, j'ai 19 ans et demi. J'avais un petit ami avec lequel je me suis fiancée. Et lui, par contre, ça c'est sûr, il était marié et avait déjà deux enfants.
Et pourtant, il n'y aura pas de coup de foudre. Ça ne va pas naître tout de suite, notre relation.
Non.
Mais à force de pugnacité, il va arriver à vous conquérir.
Exactement.
Ça se passe comment?
Il fait des approches un peu lourdes. Il avait toujours le mot juste, un petit compliment. Il y a un moment, j'ai quand même craqué pour lui accorder un dîner. Et au cours de ce dîner, il s'est un peu plus dévoilé. J'ai découvert, derrière cet énergumène agité, j'ai découvert un homme un peu plus profond, avec des qualités, qui a commencé un peu à me séduire.
Il est parti. Il est décédé. On reviendra sur votre histoire dans quelques secondes. Oui. Mais il vous a tout laissé, endetté. Il y avait quelques mois, une de Paris Match qui parlait de vous, qui disait Dominique Tapie, endetté, elle ne paye plus sa facture de téléphone. C'est lié économiquement. Vous lui en voulez à Bernard?
Il m'avait mis dans son groupe pour une part. Avec ça, j'étais poings et mains liés.
Oui.
Mais en plus, on s'est mariés sans contrat de mariage. Donc voilà, je me suis retrouvée responsable et emmené avec lui dans la tourmente. Quand on a eu l'arbitrage, que nous avons gagné, il avait touché une somme qu'il a dû rembourser. Pour lui, j'étais sortie d'affaires. Nous étions sortis d'affaires. Sauf que quand il est parti, les intérêts ont commencé à s'accumuler. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. Personne ne pouvait le prévoir.
Ça représente combien?
Donc là, j'ai une dette inextinguible. 647 704, enfin je sais plus. Avec une somme pareille, on compte plus.
Dominique Tapie, vous vivez avec combien d'euros par mois?
La moitié de sa retraite de député, voilà, puisqu'il a jamais cotisé autrement.
Ça représente combien?
Il avait 2004, voilà, vous faites le compte.
Il avait beaucoup d'amis dans sa vie?
Il avait, oui, pas beaucoup, mais il avait, on va dire, une dizaine d'amis.
Est-ce qu'ils ont répondu présent pour vous?
Tous.
Je pense notamment à Jean-Louis Borloo.
Oui, et c'est lui qui me loge. Oui, maintenant je vais reprendre ça avec mon fils qui va m'aider, Laurent. Et voilà, je vais essayer de m'assumer toute seule.
Vous le compariez, Bernard Tapie, à un pur sang. Pourquoi ?
Complètement. Parce qu'il était indomptable. C'est difficile de dompter un pur sang. Alors moi, j'ai peut-être réussi par certains côtés, mais sur d'autres, il ne m'a pas écouté.
Sur quoi il ne vous a pas écouté ?
Sur la politique.
Vous ne vouliez pas qu'il fasse de politique ?
Absolument pas, je le sentais depuis le début.
Ça l'a tué ?
Ah ben, ils l'ont tué, oui. Ils l'ont tué.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense que toutes les instances judiciaires ont été politisées. Voilà. Normalement, quand on gagne un arbitrage, on ne revient jamais dessus. Et là, encore une fois, il y a une jurisprudence Tapie.
Quand on parlait de sa possessivité, un homme jaloux, un homme très protecteur, il y a une anecdote incroyable. La dernière semaine, avant de partir, vous devez appeler le médecin. Racontez-nous.
J'appelle ce pauvre médecin, le docteur Moebi, qui venait la nuit ou en urgence. Et Bernard avait eu une grande angoisse. Enfin, il n'était pas bien du tout. Et vers 2h du matin, ce médecin arrive. Et Bernard le voit. Et il a oublié. Il était un peu sonné. Je crois que je lui avais fait une piqûre de morphine. Parce qu'il souffrait trop. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Alors l'autre me regarde quand même un peu interloqué, en disant, vous m'avez appelé. Je lui dis, je fais un signe, faites pas attention. Et il le regarde comme ça, en le pointant du doigt. Toi, t'en as après ma femme. Ça m'a fait rire. Mais il prenait ça très au sérieux.
Une semaine avant.
Donc, même dans son subconscient, il n'était pas, il était pas dans son état normal. Ça ressortait. C'était plus fort que lui. Et c'était sa propriété.
Et pourtant, vous lui avez toujours répondu. Hein. Vous faites preuve de beaucoup de féminisme, déjà dans le livre, au départ de ce livre. Vous dites avoir épousé un homme, un mâle au dos argenté.
Ben oui.
Expliquez-nous.
Les grands chimpanzés.
Ouais.
Voilà, c'était le chef de clan. Toute la tribu est autour, mais c'est lui le chef.
À la fin de sa vie, fatigué, épuisé, vous êtes l'amour de sa vie.
Oui.
Il vous demande de partir avec lui.
Oui, ben oui.
Vous lui répondez quoi ?
Je lui dis que je ne suis pas prête, moi, à partir tout de suite. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, on a tous nos chiens, nos animaux. Et puis je lui dis, et puis toi non plus. Voilà, il a eu un coup de blues, certainement.
Dominique Tapie, je vous propose d'écouter l'anecdote de Stéphane, le fils aîné de Bernard. Il va déclarer sa naissance 4 jours après. Bernard Tapie, au lieu du 5 août 1969, sur les papiers, c'est écrit le 9 août 1969.
Il va le 9 août à la mairie avec un acte de naissance, donc le mien. Il dit bonjour madame, je viens déclarer mon fils. Elle lui dit mais monsieur, vous avez un jour de retard, vous aviez 3 jours ouvrables pour le déclarer. Là je peux pas vous prendre votre papier. Il reprend le papier, il s'en va. Et là il retourne à la clinique, il rentre dans le bureau des sages-femmes, il prend un acte de naissance, il met un tampon, il met la date du 9 août. Et il retourne voir la dame. Il dit « Bonjour madame, je voudrais déclarer mon fils, s'il vous plaît. » Elle dit « Monsieur, je viens de vous dire que c'était pas possible. » Il lui dit « Mais je vous connais pas, vous, moi, mon fils est né il y a un quart d'heure. Voilà le papier. » Donc je suis né sur son état civil le 9 août.
Stéphane Tapie, qui était l'invité d'RTL Soir avec Marion Calais et Julien Célien en janvier. Vous vous souvenez de cette anecdote, Dominique ? Vous la connaissez, bien évidemment.
Évidemment, puisque j'ai quasiment élevé les enfants. Donc, je remplissais les papiers. Je savais très bien quelle était sa vraie date de naissance. Oui, oui, je l'ai connue, cette anecdote.
Vous avez conscience que ce nom Tapie reste un nom qui est critiqué, reste un nom qui est détesté par certains.
Par certains, mais pas beaucoup.
Oui.
Parce que franchement, je vais vous dire, je suis venue avec un taxi.
Ouais.
Il m'a dit, vous êtes la femme de Bernard Tapie, madame. Je vous félicite, quel homme exceptionnel. Et je n'ai que des manifestations comme ça à son endroit. C'est-à-dire que les gens du peuple, ils étaient issus du peuple, ils s'en revendiquaient. Et tous ces gens, ce que maintenant on appelle les vrais gens, ils le sentent. Il est toujours resté très simple et à l'écoute de ces personnes.
Pourquoi on y en a voulu alors ?
Ah ben c'est l'establishment. En plus, il avait un côté provocateur, hein, ça, il faut bien le reconnaître.
Mais surtout, il y a un élément qui est très important, qu'on découvre au fil de ce livre, Bernard, la fureur de vivre. c'est le fait qu'il voulait toujours en faire plus. Il voulait toujours essayer de convaincre, de se faire aimer. C'est ce que vous dites d'ailleurs à oui. plusieurs reprises. Oui. Et notamment, ça le rendait fou quand il disait qu'il a fermé une usine ou qu'il a mis des gens sur la paille. Ça, c'est quelque chose qu'il rejetait.
Oui, oui, il en était malade lui-même, je sais bien. Quand il reprenait des boîtes qui étaient moribondes, il devait licencier des personnes, mais pour en garder d'autres. Autrement, c'était la clé sous la porte pour tout le monde. Et je me souviens qu'un jour, il est rentré, reprenait une boîte, et il m'a dit, écoute, il y a une femme, elle était désespérée, elle m'a même donné un coup de parapluie. Et il était meurtri, parce qu'il connaissait l'état de ces gens. Il a été élevé au Bourget, où tout le monde était solidaire, et la vie était dure, donc... Il en était malade.
Et le 26 mai 1993,
oh là là,
une journée de bonheur, une journée de consécration.
Ensemble, nous sommes les Marseillais, nous sommes les Marseillais, et nous allons gagner, et nous allons gagner. Allez, 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 allez.
Dominique Tapie, vous venez de tapoter votre cœur, vous.
Ah oui, j'ai les larmes aux yeux, oui, ça m'émeut. Oui, ça c'est tellement bon moment. C'était pour lui un aboutissement. Enfin, oh, il était tellement fier, parce que très patriote, hein, j'arrête pas de le dire. Tellement fier d'avoir ramené cette Coupe des Champions. Et d'ailleurs, personne
n'a fait mieux.
Personne n'a pu la revoir.
Oui. En tout cas. Ouais, l'OM reste le seul club. Oui. Regardez, écoutez ça, Dominique Tapie.
Amélie Pelé pour le tirer.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau.
Et but, but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
26 mai 1993, l'OM champion d'Europe. Et pourtant, Raymond Gauthals, l'entraîneur belge de l'Olympique de Marseille, oui, à l'époque, veut sortir Basile Boli, le défenseur.
Sais, j'étais juste derrière Bernard.
Racontez-nous.
Bernard était avec son talkie-walkie. Et il faut dire que Basile, il avait été mortifié par la défaite de Barry. Qu'on aurait dû gagner
en
quand
91.
Même. Hein. Bon. Et Bernard, donc, a un appel de Gauthals qui lui dit « Basile veut sortir, il me fait signe, il est blessé. » Et Bernard lui dit « Non, 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 c'est dans la tête, il n'est pas question, tu le laisses, tu ne le sors pas. » Il ne sort pas, et voilà.
Et il marque.
Et il marque quelques minutes après.
Et l'OM bat le grand Milan AC de Berlusconi, ouais, de Rijkaard, de Baresi. L'OM est champion d'Europe, la seule
à ce jour
française à ce jour. Mmh. Et vous dites dans le livre que c'était la consécration pour lui, le plus beau jour de sa vie. Il a même bu une coupe de champagne ce soir-là.
Oui, lui qui ne buvait jamais. Non, ils avaient rempli la coupe de champagne, et donc là, il a forcément participé.
En 2018, 25 ans après ce titre, Marseille avait célébré son boss, Bernard Tapie. Il l'appelait comme ça. Il l'appelle toujours comme ça, les Marseillais.
Toujours.
Le boss. Là, vous aviez les larmes aux yeux en écoutant ce Aux Armes. Parce que Bernard disait que c'était son plus beau médicament, sa meilleure chimio, l'amour des Marseillais. C'est et l'amour vrai qu'ils ont aussi pour vous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous savez, quand je vais sur sa tombe, elle est toujours fleurie. Moi, j'y vais à peu près une fois par mois. C'est pas très pratique, mais bon, j'ai respecté sa volonté. Et il y a toujours une peluche, une écharpe, et puis des petits messages. Et on me dit qu'avant un match important, les supporters viennent à tour de rôle voir le boss pour qu'il leur donne la force. C'est quand même incroyable, cette ville.
Et il était capable de vous en vouloir. Il avait des superstitions, Dominique.
Oui. Il fallait que personne ne bouge. C'est superstitieux, c'est incroyable.
Et un jour, il y a un match qui est difficile et il a pas sa doudoune.
Alors ça, c'est un des présidents des supporters, je ne sais plus si
les
c'est
winners.
Les Winners, qui m'a raconté ça à la Toussaint. Il était là au cimetière et il m'a raconté que Bernard voulait son grand manteau Adidas fétiche et on ne savait pas où il était. Et le match commence, on prend un but. Alors là, il était fou furieux. Bon, Il a couru, ils ont trouvé le manteau, Bernard met son manteau, et voilà, ça y est, on a gagné le match. Donc, ça s'explique, si on veut, grâce au manteau.
Bernard est parti Il y a quelques mois, vous dites que du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé sans rien, on vous a tout retiré, carte crédit, plus téléphone. Comment on réagit dans ces cas-là, Dominique Tapie ?
On réagit pas, moi j'étais KO debout. KO debout. Voilà. Je ne savais pas vers qui me tourner. Il y avait encore tous ces avocats qui, pendant 15 jours, 3 semaines, on a fait une grande réunion, m'ont expliqué ce qui allait se passer. Et puis j'ai eu la chance, l'extrême chance, d'avoir des amis qui m'ont carrément aidé financièrement. Et puis après, bah, j'ai été mise en liquidation. J'ai donc un liquidateur qui gère tout pour moi.
Et pourtant, certaines rumeurs disent encore que Bernard Tapie aurait de l'argent dans un paradis fiscal.
Ah mais non, non, jamais. Jamais. Bernard n'était pas du genre à prévoir. Il était un impulsif.
Oui.
Il avait d'ailleurs, avec toutes les investigations qui ont été faites, mais dans le monde entier... Il n'y a rien, ils n'ont jamais rien trouvé.
Dominique Tapie, il y a une série Netflix qui va sortir bientôt sur Bernard Tapie,
oui,
sur votre histoire. Je crois que ça vous agace.
Bah oui, parce que la personne qui fait cette série était venue voir Bernard et lui avait dit non. Si quelqu'un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent. Et voilà, bon, no comment.
Dominique Tapie, une dernière question. Vous le voyez comment le futur, pour vous ?
J'essaie de me dire que voilà, le dossier va se clore à un moment ou à un autre. Et il faut que j'essaie d'être forte pour lui. Il est là-haut. Vous savez qu'il m'envoie plein de signes. Hein.
C'est-à-dire ?
Il est très présent.
Vous les voyez comment, ces signes ?
Des signes. Je raconterai ça peut-être dans un autre livre. Mais Sophie aussi a des signes. Laurent a eu des signes. Il est là. Donc je vais rester droit dans mes bottes. Et puis voilà, continuer d'avancer. J'ai pas le choix.
Et continuer de supporter l'Olympique de Marseille, j'imagine. Bernard, oui. La fureur de vivre, elle seule le connaissait vraiment. C'est le document de Dominique Tapie avec Catherine Siguret. C'est aux éditions de l'Observatoire.
Elle a été formidable.
Et vous êtes critique. Vous lui en mettez quand même hein, des coups à Bernard Tapie. Mais qui aime bien, châtie bien.
Et puis, il avait beaucoup plus de qualités que de défauts.
C'est ce que vous répétez aussi.
Hein ?
Merci à vous, Dominique Tapie, d'avoir été mon invité exceptionnel. Merci à vous.
Merci
à
beaucoup. Vous.
À bientôt. Les Restos du Cœur voient leur nombre de bénéficiaires augmenter. 170 millions de repas à distribuer en 2023. Pourront-ils répondre à la demande ? Toutes ces questions, je les pose au président de l'association, Patrice Douré. Il est mon invité sur RTL dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Le nombre de bénéficiaires ne fait qu'augmenter. Les Restos du Cœur de plus en plus sollicités. Début mars, l'association a organisé un week-end de collecte dans l'espoir de récupérer des produits alimentaires et d'hygiène. Patrice Douré est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président des Restos du Cœur. Thierry Jacques, responsable bénévole du pôle alimentaire. Vous êtes aussi mon invité aujourd'hui. Bonjour.
Oui, bonjour.
On est content d'écouter la voix des Restos, cette chanson qui est restée mythique, parce qu'avant d'évoquer la situation en France, l'inflation, la crise alimentaire, des gens qui viennent vous voir de plus en plus, il faut le dire, vous avez désormais le bilan de la collecte de début mars, Patrice Douré, et il y a plutôt une bonne nouvelle.
Oui, alors une bonne nouvelle parmi malheureusement beaucoup d'autres qui sont plus mauvaises. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous alertions déjà avant cette collecte nationale sur une augmentation de 22% du nombre de personnes accueillies au Resto du Cœur. Il est vrai qu'aujourd'hui, la collecte nationale, nous avons été entendus par les Français qui sont toujours aussi généreux avec les Restos du Cœur, malgré, nous le savons, la difficulté pour eux-mêmes, pour beaucoup, beaucoup trop de personnes, ouais, de remplir leur propre chariot. Mais ça ne suffira pas compte tenu de l'augmentation.
Ça ne suffira pas, on est d'accord, on le rappelle. En revanche, on avait des inquiétudes de 10% de baisse, et notamment pour les Restos et plusieurs associations. Les Français ont répondu quand même présent.
Oui, il faut sincèrement les remercier. Les Français sont généreux. On l'a vu à chaque crise. Mais au milieu de ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que parmi eux, il y a énormément de personnes qui souffrent d'un accès à l'alimentation qui est beaucoup plus difficile. L'an dernier, nous avions distribué 142 millions de repas et nos projections nous amènent à penser que la fin de la campagne qui est en cours, nous aurons distribué 170 millions de repas, c'est-à-dire 30 millions de repas de plus, avec un besoin d'accompagnement beaucoup plus fort encore.
On reste encore sur la collecte de début mars avec Thierry Jacques, responsable bénévole du pôle alimentaire. Thierry, j'imagine que pour vous aussi, comme pour Patrice Douré, c'est une satisfaction de voir que les Français ont répondu présent.
Oui, absolument. On est très satisfait parce que malheureusement, d'autres associations ont eu des résultats qui étaient plutôt dans la négative. Nous, on a légèrement augmenté, c'est-à-dire qu'on devra atteindre les 8700 tonnes à peu près. On a eu également une augmentation des magasins qui nous ont ouvert leurs portes. Donc oui, très satisfait. Malheureusement, comme le disait Patrice, on va avoir du mal à joindre les deux bouts, on va dire. Mais d'une manière générale, on est assez satisfait, effectivement.
Patrice Douré, vous le disiez il y a quelques secondes, l'association a vu une hausse de 22% des bénéficiaires sur les trois premiers mois de la campagne d'hiver. Pour que ça soit concret pour les auditrices d'RTL et pour les auditeurs, ça représente combien de bénéficiaires en nombre ?
C'est l'équivalent de 200 000 personnes en plus. Imaginons le maire d'une commune qui vient, qui nous dit « Moi, j'ai 200 000 habitants dans ma commune. Ils ont tous besoin d'une aide alimentaire. » Et je vous l'ai dit, c'est 170 millions de repas qui seront probablement distribués à la fin de cette campagne.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 200 000 personnes de plus, elles viennent vous demander de les accompagner pour se nourrir. Il faut que ça soit concret.
Oui, il faut être clair. Aujourd'hui, les personnes qui viennent frapper à la porte des Restos du Cœur sont des personnes qui n'ont plus le choix. C'est-à-dire que c'est tellement difficile parfois de franchir la porte d'une association de solidarité. On est tellement parfois montré du doigt, stigmatisé, que franchir cette porte, c'est le moment ultime. Et on a beaucoup de personnes qui viennent et qui étaient pensées être totalement à l'abri d'avoir besoin de demander une aide alimentaire ou un accompagnement spécifique à une association telle que les Restos du Cœur. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui n'est plus tenable, c'est qu'aujourd'hui il y a des millions de personnes qui pensaient être totalement à l'abri parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont un logement, parce qu'elles ont peut-être travaillé toute leur vie, et aujourd'hui ça ne suffit plus.
Ça veut dire qu'en clair, c'est comme si la ville de Rennes, ou la ville de Lille venait au resto. Désormais.
Oui, tout à fait, c'est 200 000 personnes de plus, et ces 200 000 personnes de plus avec toujours 70 000 bénévoles, et c'est l'occasion pour moi de les remercier encore, parce que c'est un travail exceptionnel qui est fait sur le terrain, avec des mêmes conditions de fonctionnement, les mêmes chaînes logistiques. Ça veut dire que cette situation, elle est difficile pour toutes ces personnes, et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. Et elle est difficile également pour nos équipes, qui n'ont pas eu de pause entre la crise sanitaire et cette crise inflationniste qui met tout le monde sous tension.
Est-ce qu'il s'agit d'une situation que vous avez déjà rencontrée, Patrice Douré ?
2008, on a eu une crise qui, la première année, nous a amené 15% de personnes en plus. Trois ans plus tard, c'était 25% de personnes en plus. Aujourd'hui, ces 25%, nous sommes prêts de les atteindre quelques mois seulement après le début de cette crise inflationniste. Et ce qui vient compliquer un petit peu aussi tout cela, contrairement à 2008, c'est que cette augmentation du nombre de personnes accueillies, des besoins, se conjugue avec une augmentation de nos propres charges et de fonctionnement, et surtout notre budget alimentaire. Il faut savoir que les Restos du Cœur achètent plus d'un tiers de ce que nous distribuons gratuitement. Je vous donne un chiffre qui est très significatif. Avant cette crise inflationniste, une semaine de commandes, d'achat des Restos du Cœur, et dont Thierry a la charge d'ailleurs, c'était entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros chaque semaine. Aujourd'hui, ce sont des semaines qui dépassent systématiquement 5 millions d'euros. C'est-à-dire que notre budget d'achat alimentaire, pour pouvoir continuer à accueillir dignement, a doublé, est en train de doubler.
Thierry Jacques, vous, le responsable bénévole du pôle alimentaire, il y a aussi des gens qui viennent dans vos centres de manière assidue. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que malheureusement, ces gens-là ne sortent pas de la précarité. C'est-à-dire qu'on a des familles, malheureusement, qui font partie... des gens qui viennent régulièrement et que malheureusement les enfants aussi. Je voudrais quand même rappeler que on accueille la moitié des gens qui viennent au Resto du Cœur sont des moins de 25 ans et que l'année dernière on a accueilli plus de 110 000 bébés. Donc ça veut dire que avec la situation actuelle, on a beaucoup de tristesse parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir en fait.
Thierry Jacques, vous parliez il y a quelques secondes des jeunes. Plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du Cœur ont moins de 25 ans.
Oui, et puis vivent avec sous la moitié du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 500 euros par mois. Et la petite enfance, les 1000 premiers jours, c'est une priorité des Restos du Cœur. Ça veut dire qu'on a effectivement engagé un programme qui est lourd, qui est un programme de 4 à 6 millions d'euros par an, pour pouvoir réussir à couvrir 100% des besoins alimentaires de ces bébés. Parce que si on aide les bébés, on aidera les parents, on aidera les mamans. Et ça permettra peut-être aussi à ces mamans de pouvoir s'occuper d'elles, comme vous l'avez très justement dit.
Se reconstruire.
Se reconstruire
dans la vie.
pouvoir accéder peut-être à une formation, à un emploi, être accompagné par nos bénévoles pour un suivi budgétaire. Et ce programme, il est important, il nécessite beaucoup de moyens. Sur ce programme Petite Enfance, qui était important, qui est encore une fois une priorité pour les Restos du Cœur, nous avions lancé un appel à l'aide lors de la collecte nationale et un de nos partenaires nous a entendus, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec qui nous avons signé un partenariat mercredi de 5 millions d'euros qui va nous aider à accompagner ce programme. Et j'espère que, et je lance un appel à toutes les entreprises, puisqu'il faut aller chercher du soutien là où c'est possible, toutes les entreprises qui pourront nous accompagner. On ne pourra pas y arriver tout seul.
Thierry Jacques, ça fait combien de temps que vous êtes au resto ?
Moi, c'est la 7e année et on se rend compte que, pour vous donner un chiffre, il y a 35 ans, on distribuait 8 millions de repas. Actuellement, on va sans doute atteindre les 170 millions. Donc ça veut dire que cette précarité qui était déjà extrêmement sensible à l'époque de Coluche, elle s'est intensifiée et on ne peut pas ne pas agir par rapport à ça.
Vous avez des craintes pour les prochains mois, notamment que la situation ne s'arrange pas pour les familles des Restos du Cœur ?
Ah oui, très clairement. Très clairement, parce qu'on n'a jamais connu une augmentation aussi forte et aussi rapide, et qui touche tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, avec énormément de seniors et de retraités. Même si demain l'inflation va diminuer, ça mettra des années avant de pouvoir se rétablir.
Merci beaucoup Thierry Jacques, merci beaucoup Patrice Douré. Cette voix de Coluche, cette chanson restée légendaire, la chanson des Restos. On peut célébrer aussi les artistes qui permettent de donner beaucoup d'argent au Restos du Cœur à travers le concert des Enfoirés. Il n'y a pas de petits dons.
Non, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons comptent. Toutes les personnes qui sont généreuses en concert, la solidarité reste essentielle.
On compte sur vous, c'est ça ?
Toujours.
Toujours. Ça marche toujours avec Coluche, Chant Coluche, avec l'équipe des Restos du Cœur. Bravo à vous Thierry Jacques, bravo à vos collaborateurs. Merci. Patrice Douré, pour leur travail exceptionnel un peu partout en France. Combien de membres ?
Plus de 70 000 bénévoles 70 000. Aujourd'hui sur tout le territoire.
70 000, merci. Voilà, et 70 000, bravo à vous. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Patrice Douré, Thierry Jacques sur RTL, bien évidemment. À très bientôt. C'est l'une des stars de l'équipe de France de rugby. Il nous fait rêver en ce moment. Gaël Ficou, capitaine de la défense de l'équipe de France de rugby, est mon invité dans Focus Dimanche. A tout de suite sur RTL.
Focus Dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Ils nous ont fait rêver pendant plusieurs semaines durant le tournoi des Six Nations. Dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est la Coupe du Monde de rugby pour l'équipe de France. Ils vous ont donné du bonheur. Il vous a donné du bonheur. C'est Gaël Ficou, le capitaine de la défense des Bleus. Il est mon invité aujourd'hui dans Focus Dimanche. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Gaël, est-ce que la déception, elle est un petit peu retombée depuis la semaine dernière avec cette victoire, certes, dans le dernier match du tournoi des Six Nations contre l'Écosse, mais surtout ce match exceptionnel contre l'Angleterre, mais avec la perte du Six Nations, avec la victoire de l'Irlande, est-ce que la déception, elle est toujours présente ?
Forcément, déçu de ne pas avoir gagné Six Nations, mais quand même content parce que c'était pas facile. Il y avait trois matchs à l'extérieur face à ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde, l'Irlande. Donc c'est assez positif, même si forcément on est un peu frustré parce qu'on voulait continuer à gagner ce grand chelem.
Gaël, on doit reconnaître une grande équipe, sans doute au lien qu'elle crée avec le public. Ce lien que vous avez créé, il est fantastique. Même si vous avez perdu, eh bien, les supporters sont derrière vous parce que vous nous avez donné des émotions incroyables pendant ce tournoi et notamment cette victoire historique face à l'Angleterre. Vous avez laminé, humilié l'Angleterre chez elle à Twickenham. C'est un record jamais vu.
Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de gagner de cette façon, surtout que d'habitude, c'est nous qui sommes malmenés depuis pas mal d'années. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on arrive à les gagner. Donc, c'est plutôt positif pour nous. On sait que c'est un match important pour nos supporters, pour le crunch, pour ce match phare de ce Six Nations. Donc, c'est hyper positif pour nous.
Bon, on va se tourner désormais vers la Coupe du Monde de rugby, Gaël, qui arrive dans quelques mois. Ça sera en septembre 2023. Une Coupe du Monde en France, chez vous, à la maison, avec ce groupe qui retrouvera la France, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, l'Italie. Un groupe, certes, pour certains abordable, mais il y a quand même la Nouvelle-Zélande dans le groupe. Ça va déjà être une petite finale avant l'heure ?
Bien sûr que ça va être très dur, chaque match vont compter. Ça va être beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, de pression, mais bon, ça va être cool. On a hâte d'y être et puis on va se préparer en conséquence.
Pourquoi Gaël, on s'est autant attaché à cette équipe de France selon vous ?
Je pense qu'on prend déjà nous énormément de plaisir, on gagne, on véhicule une bonne image et ça les Français se reconnaissent en nous, donc c'est hyper positif.
cette reconnaissance, vous en parlez entre vous? Vous en parlez de ce nouveau lien qui s'est créé avec avec le public?
Ben, on sent l'engouement, bien sûr qu'on en parle, mais c'est innocent chez nous, donc on se prend pas non plus la tête, quoi. On est content de ça, on est content d'être soutenu, d'être aimé, ça fait plaisir. Et voilà, tout simplement, et après, pas se prendre trop la tête non plus, et vivre l'instant présent.
Vous avez raison, vivre le reste présent pour essayer de tout déchirer ensuite. Il y a un homme qui représente sans doute aussi ces valeurs de l'équipe de France de rugby, c'est Fabien Galthié. On a l'impression qu'il vous a donné quelque chose de différent depuis plusieurs mois avec cette équipe de France de rugby. Pourquoi il est si différent, Gaël? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi sa valeur ajoutée? C'est quoi la patte Fabien Galthié?
Déjà, il est compétent, il met beaucoup d'humain dans ce qu'il fait. Ça aide pas mal quand même, déjà. Et après, il est performant, c'est... Tout ce qu'il fait, c'est étudié, c'est précis. Donc forcément, il n'y a pas de place au hasard.
Vous savez que bientôt, Gaël, vous avez des records aussi à aller chercher. Vous avez joué dimanche votre 40e match dans le tournoi. Record pour un joueur français depuis le passage aux Six Nations en 2000. Vous égalez Sylvain Marconnet. Il y a Fabien Pelous à aller chercher. Il y a Philippe Sella. Il y a des records à aller chercher pour vous, hein?
Ouais, bien sûr, on va essayer. On va tout faire pour, mais c'est jamais simple. Et après, voilà, moi, je joue pour gagner et gagner des titres avec mon équipe. Après, bien sûr, que s'il y a des records personnels, on va essayer d'aller les chercher, mais c'est pas mon milieu.
Une question plus personnelle, Gaël. Vous avez quel souvenir de vos premiers moments de rugby, enfant? C'était quand?
J'avais 13 ans, donc 13-14 ans, donc c'était un petit moment.
Et pourtant, à cet âge-là, on prenait souvent le football. Et surtout, c'est assez drôle parce que vous avez aussi un corps de footballeur, Gaël, et vous êtes très véloce, etc. Et pourtant, vous, c'était le rugby.
Oui, bah, c'est des choix, tout simplement.
Une dernière question, Gaël, pour revenir sur cette équipe de France et vous plus personnellement. Ça serait l'aboutissement d'une carrière, j'imagine, d'être champion du monde en France. Ça aussi, le fait que vous jouez à domicile, vous jouez à la maison, vous n'avez même pas besoin de ramener la coupe à la maison, elle est chez vous, ça joue aussi?
Qu'elle soit à la maison, ça c'est certain, ça y joue pour l'engouement, les supporters, etc. Après, il faudra aller chercher quand même, parce que les matchs, les supporters, ils sont pas sur le terrain.
Vous pensez qu'on est favori dans cette compétition, Gaël?
Non, je pense pas vraiment qu'il y ait de favori, je pense que tout le monde est favori, je pense que tout le monde a le potentiel et la chance de la gagner, donc à partir de là, chaque match peut être gagné ou perdu, donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas de favori, c'est une nouvelle compétition, tout le monde repart à zéro.
Merci beaucoup Gaël, merci d'avoir été avec nous dans Focus Dimanche aujourd'hui, merci de nous faire rêver avec l'équipe de France de rugby, vous nous donnez de... Et vous nous transmettez de très belles valeurs depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et on vous dit merde. Il nous reste que ça à vous dire pour cette Coupe du Monde de rugby parce que on vous attend et on est prêt à vous supporter. Vraiment.
Parfait. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Merci.
Merci encore, Gaël Ficou. Vous pouvez retrouver l'actualité du rugby dans le podcast de la rédaction d'RTL. On refait le sport hors série rugby à retrouver avec Cyprien Bétou. Merci encore, Gaël Ficou. En place en France depuis 2014, la justice restaurative est un espace de dialogue entre victimes et délinquants, criminels. On vous explique tout sur ce dispositif dans Focus Dimanche. C'est dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Des dialogues entre victimes et auteurs d'infractions. La justice restaurative a été instaurée en France en 2014. Il s'agit d'un dispositif de réparation collective. Ce travail de justice est d'ailleurs porté au cinéma dans un film exceptionnel. Je verrai toujours vos visages, réalisé par Jeannery, qui sort en salle mercredi prochain. Noémie Micoulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice à l'Institut français de justice restaurative. Vous avez travaillé sur ce film Je verrai toujours vos visages. Vous avez conseillé la réalisatrice Jeannery. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est concrètement la justice restaurative?
Alors la justice restaurative, c'est un processus qui permet des dialogues, des espaces de dialogue entre des personnes qui sont victimes, des personnes qui sont auteurs, parfois leurs proches. Ce sont des dialogues qui sont confidentiels, qui sont sécurisés, qui sont préparés en amont. Ils sont encadrés par des bénévoles formés. Par ailleurs, il n'y a aucun bénéfice à y participer, que ce soit pour les personnes victimes que pour les personnes auteurs, tant d'un point de vue indemnitaire, pénitentiaire, judiciaire. Et puis aussi, ce sont des processus qui sont volontaires. Il y a différentes manières de permettre ces espaces de dialogue d'avoir lieu. Dans le film de Jeanne, vous pouvez voir des rencontres détenues victimes où des personnes victimes et des personnes auteurs d'une infraction similaire mais pas identique vont échanger ensemble pendant 5 semaines. Et puis vous pouvez voir aussi une médiation restaurative où là, plus précisément, c'est une personne victime et la personne auteur qui sont concernés par la même infraction vont préparer en amont un espace de dialogue en vue éventuellement des effets de restauration, de réparation de soi.
Ça veut dire, Noémie Micoulet, qu'en clair, dans une prison, pendant 5 semaines, il va y avoir 3 victimes. Je donne des exemples de homejacking, d'agression dans la rue, de cambriolage un peu violent aussi, qui pourrait s'apparenter à un homejacking là aussi. Et en face, il va y avoir des cambrioleurs, des délinquants de rue, des agresseurs de vol à l'arraché. Et ensemble, ces personnes discutent. Discutent du fait, discutent du délit, discutent parfois du crime. Et à côté, en face, des victimes qui veulent juste un peu plus de paix, un peu plus de soulagement, d'être apaisées.
Alors ils vont discuter en effet de ce qui s'est passé, mais aussi des répercussions. Tant pour les personnes victimes, les répercussions sur eux-mêmes, sur leur vie intime, sur leurs proches, sur leur travail, sur leurs loisirs, mais aussi les personnes auteurs vont pouvoir expliquer, peut-être mieux comprendre ce que vivent les personnes victimes, vont pouvoir aussi ressortir de la figure du monstre pour reprendre une figure humaine par le regard des personnes victimes. C'est d'imaginer que le dialogue, on en connaît les vertus, et bien aussi peut aussi apporter quelque chose de réparateur, de restauratif, autant pour les personnes victimes que pour les personnes auteurs.
Mercredi prochain sort le film « Je verrai toujours vos visages » réalisé par Jeanne Herry avec un casting incroyable. On va revenir dans quelques secondes sur le casting. Vous avez conseillé Noémie Micoulet. Votre rôle est interprété par l'actrice Élodie Bouchez. Bande annonce.
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
Le casting est incroyable. Vraiment, c'est impressionnant. Ce film, vraiment réparateur. À la fin de ce film, on se dit que cette justice réparative, elle peut tous nous faire du bien.
Ce que Jeanne a réalisé, ce que Jeanne a écrit, c'est un film qui décrit en tout point ce qu'on peut retrouver dans ces processus de justice restaurative.
Noémie Micoulet, dans ce film, vous dites souvent que la justice restaurative, elle est impensée. Il y a des idées reçues, des clichés. En clair, on pourrait se dire, ah mais ça y est, c'est encore un truc pour les délinquants, un truc pour les criminels qui sont en prison, on va encore les aider. Mais en fait, on découvre dans ce film, et on découvre à travers votre vie, ça sert surtout aux victimes pour recréer du lien et pour permettre à des gens, après un drame, après une agression, de pouvoir reprendre confiance en eux.
C'est-à-dire que les effets qu'on retrouve chez les personnes victimes, c'est de l'apaisement, c'est sortir de l'isolement. Oui, ça a des effets très bénéfiques pour les personnes victimes, ça en a aussi pour les personnes auteurs. Et finalement, de se dire aussi qu'une société apaisée, c'est une société où chacun a une place juste, digne, et qu'on n'a pas figé dans le statut d'auteur, dans le statut de victime. Comment dire, c'est une société qu'on mérite, que les personnes soient traitées dignement.
La parole dans ces échanges est donnée grâce à un bâton. C'est-à-dire qu'en clair, pour prendre la parole, il faut prendre un bâton qui est au milieu de la pièce et le reposer juste après la fin de son intervention ou de le donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi l'utilisation d'un bâton, Noémie Micoulet ?
Alors, c'est un bâton de parole, c'est un objet qui a somme toute juste le quand je l'ai en main, je parle. Quand l'autre l'a en main, je l'écoute. Et quand je l'ai en main, je ne parle pas. Mon silence est évocateur. Ce bâton de parole, finalement, dans les rencontres de groupe, c'est aussi pour apprendre à écouter l'autre, pour ne pas être dans des échanges de ping-pong. Et plusieurs fois, les professionnels que je forme et que j'accompagne me disent « Noémie, ça sert à rien ton bâton de parole ». Et je leur dis « Essayez-le au moins les 2-3 premières fois. Après, vous verrez ce que vous en faites. » Mais il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre aussi à entendre ce que les autres ont à dire sans être tout le temps dans sa tête aussi.
Votre rôle, Noémie, dans ce film est joué au cinéma par Élodie Bouchez. Écoutez ce qu'elle disait la semaine dernière dans l'excellent journal Inattendu d'Ophélie Meunier.
J'ai vu des gens extrêmement sensibles, ultra empathiques et qui, malgré tout, sont très installés dans leur posture, car cette posture est absolument nécessaire pour pouvoir être solide face à la souffrance de ces gens en face.
Vous en souffrez parfois, Noémie Micoulet ? C'est dur parfois non. De prendre toute cette douleur, toute cette souffrance sur soi.
Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est plutôt, je me sens souvent très honorée parfois le plus difficile, c'est pas d'accompagner les personnes. Le plus difficile, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent y avoir accès.
Est-ce que vous avez des chiffres, Noémie Micoulet, sur la suite? Est-ce qu'il y a des cas de récidive? Est-ce que ça marche concrètement?
Ça dépend ce qu'on entend par marcher. Si l'objectif de la justice restaurative, c'est de permettre des espaces de dialogue, eh bien, c'est si quand ces espaces de dialogue ont lieu dans le respect de chacun et de la dignité de tout le monde, ces espaces ont fonctionné. En revanche, c'est la question de qu'est-ce qu'on en attend, nous, en tant que société. Bien, est-ce qu'on pourrait se dire que l'apaisement, sortir de la figure du monstre, retrouver de la dignité, c'est déjà en soi, ça marche déjà en soi. Et c'est ce que la plupart des personnes qui participent à ces mesures de justice restaurative nous disent. En revanche, la question de la récidive, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe. Quand on parle de sortir de la récidive, c'est sortir de un processus de désistance. Petit à petit, on en sort. Et la justice restaurative peut être un des leviers de cette sortie, mais n'est pas un processus miracle. Il n'y en a pas, malheureusement.
Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leïla Bekti, Elodie Bouchez, Denis Podalides, Gilles Lelouch, Julien Brahim, Miu Miu, Jean-Pierre Darroussin. On retrouve ce casting incroyable dans le film Je verrai toujours vos visages, réalisé par Jeanne Herry, inspiré de ces histoires de médiateurs, de médiatrices comme vous, Noémie Micoulet. Vous leur permettez de se relancer dans la vie et de se reconstruire. Donc bravo à vous.
Merci beaucoup. Touchant, merci.
Je vous souhaite de passer un excellent dimanche au RTL et courez voir mercredi prochain, Je verrai toujours vos visages. Vous allez vous sentir mieux à la sortie de ce film. Bon dimanche à vous, Noémie Micoulet.
Merci,
au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Grâce à Christelle Pernet, 100 000 personnes boivent de l'eau potable chaque jour en Afrique malgré les sécheresses. Au Niger, c'est une héroïne. Vous allez découvrir dans un instant le destin hors norme de cette Française. Ne bougez pas, c'est sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mercredi dernier, Le Monde célébrait la journée internationale de l'eau avec des sécheresses qui touchent toute la planète et désormais la France. L'eau est au cœur du projet exceptionnel des Puits du Désert, une association créée et présidée par Christelle Pernet. Grâce à cette femme, 360 puits ont été créés au Niger, ce qui permet à 100 000 personnes de vivre. Christelle Pernet est mon invitée sur RTL dans Focus Dimanche. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous êtes mon invitée en studio en compagnie de Mohamed, le chef du ONG Tiden, cette ONG qui est au Niger. C'est aujourd'hui un projet incroyable que vous menez depuis 20 ans, depuis 2004. L'association Les Puits du Désert agit dans le nord Niger, dans la région d'Agadez. Vous avez installé 360 puits, vous avez permis à 100 000 personnes de vivre.
Oui, on a construit 360 puits depuis 2004, effectivement. Et ça touche dans une zone vaste comme la France, même plus grande que la France. Ça touche à peu près 100 000 personnes qui ont accès à l'eau potable, pour irriguer les jardins, pour évidemment boire, sauver les enfants, parce que c'est la région du monde où la mortalité infantile à cause des maladies hydriques, de l'eau sale, était la plus importante. Un enfant sur cinq n'atteint pas l'âge de 5 ans.
Mercredi soir, je vous ai rencontré grâce à l'entremise de Benjamin Patou, le président du groupe MoMA, avec sa fondation qui essaye de faire avancer les choses liées aux associations. Comment vous arrivez à créer des puits dans le désert d'Agadez au Niger?
Les populations sont tellement, tellement en manque d'eau. C'est tellement un objectif essentiel et unique. Toute la journée, ils passent à aller chercher de l'eau. Les enfants marchent pendant des heures, ne peuvent pas aller à l'école. C'est naturel. Quand ils ont découvert ou su qu'il y avait une association française associée à une association que Mohamed Iksa a créée au même moment pour venir m'aider à porter la logistique et la connaissance, ils viennent tous demander. Mohamed, il a 50 personnes tous les jours qui font la queue devant chez lui pour lui dire on veut un puits, on a besoin d'un puits. 360, ça paraît à notre échelle française énorme, mais pour eux, soit 360, c'est rien. Il en faudrait 1000 puits dans cette zone, comme je disais, grande comme la France. Donc les gens viennent naturellement. Et ensuite, Mohamed et ses équipes jugent de l'opportunité, de l'urgence. C'est-à-dire, si vraiment les gens viennent demander un puits, que le puits qu'ils utilisent est à 50 km, qu'il faut vraiment rapprocher l'eau des campements, il décide lui-même de l'urgence et de la priorité. Ça se fait vraiment naturellement. La demande est énorme.
Vous récoltez des fonds pour créer des puits. Ça nous rappelle quand même l'engagement des plus grands artistes français, l'engagement de Balavoine et l'engagement d'une femme aussi, France Gall.
Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout arrêtent dans.
crois pas dans leur sourire d'enfant.
La chanson d'Azima, cette chanson de France Gall, écrite et composée par Michel Berger, basée sur une lettre d'un petit garçon touareg, Azima, et ce lien que Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine avaient avec cette région du Sahel. Mohamed, vous avez connu toutes ces personnalités dans les années 80. Vous avez connu notamment le regretté Thierry Sabine.
Je reconnais tout ce monde des rallyes parce que ça fait partie de ce qui a fait connaître quand même le nord du Niger. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme, donc j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Manu Dayak, qui s'occupait de leur accueil, qui était très, très ami avec Thierry Sabine.
Vous êtes resté ami, Mohamed, avec Jackie X. Ils sont restés attachés à Agadez, ils sont restés attachés au Niger et à ses populations.
Tout à fait. Jackie X fait partie des gens qui ont fait le premier puits d'air au Niger, dans les déserts nigériens. Ouais. Et d'ailleurs, nous, quand on a commencé à faire le puits, il avait quand même une idée que nous, on n'avait pas ce qu'il dit. Nous, on n'est pas une baguette magique qui nous permet de savoir là où il y a de l'eau. Donc, je préfère plutôt de réhabiliter les puits qui existent déjà. Donc, on est resté sur son chemin quelque part, parce qu'on les doit à ça, on va dire.
Mohamed, ce grand chef touareg est avec nous en studio. Christelle Pernet, vous, la présidente fondatrice des Puits du Désert, votre rencontre avec Mohamed, elle est incroyable. C'est une rencontre de film. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, une rencontre de film, comme vous le dites. En fait, moi, j'avais passé mon brevet de pilote avion et j'étais pilote privé et je participais chaque année, depuis de longues années, à une opération humanitaire qui s'appelait Air Solidarité. Puis en 2002, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, l'essence des petits avions avait été rationnée. Toute l'équipe était bloquée à Niamey, la capitale du Niger, sans essence. Et moi, j'ai trouvé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey un équipage hollandais qui m'ont donné deux fûts d'essence de 200 litres. Et donc, avec le copilote et la photographe qui nous accompagnait, on est allé au Cameroun où on était attendu pour financer des projets humanitaires. Et puis, je me suis rendu compte que l'essence ne passait pas dans le moteur. J'avais un avion à aile haute, un Cessna 210 avec des réservoirs dans les deux ailes. Et il y avait une aile où l'essence ne passait pas. En fait, je n'avais pas filtré l'essence en partant du Cameroun. Et il y avait des petits cailloux qui empêchaient l'essence d'aller dans le moteur. Ce qui fait que je n'avais pas suffisamment de réserve pour continuer jusqu'à Tamanrasset. Donc j'ai lancé un appel à la radio. J'étais au-dessus du Ténéré. Il fallait que je me pose absolument. Et là, j'ai entendu une voix, Mohamed, qui me disait « Mais vous êtes ici à tel endroit, il y a une piste à tel endroit, je vais vous guider ». Alors déjà, j'étais très, très soulagée parce que je commençais à paniquer un petit peu. Donc, je suis allée au-dessus de la piste. J'ai tourné. Effectivement, il y avait une oasis et il y avait une piste. Et j'ai vu ce grand Touareg avec son boubou bleu. Il avait accroché un chèche dans un arbre. Et puis, il avait dégagé les pierres. J'ai tourné un peu au-dessus de la piste. Il y avait deux, trois ânes qu'il a chassés. Et puis, j'ai pu me poser.
Il vous a sauvé ?
Oui, quelque part, on peut le dire comme ça, vraiment, oui. Je me suis posée, et j'ai vu ce grand Touareg avec le boubou qui volait par le vent de l'hélice au bord de la piste. Et puis, je suis descendue du cockpit. Il est sorti de sa voiture, il m'a regardé, il m'a dit « Bonjour, vous voulez un coca ?» Et c'était vraiment, je me suis dit « Mais je rêve, je suis au paradis ou quoi ?»
Et ces puits, ces 360 puits, servent à 100 000 personnes, et notamment des adolescents, notamment des enfants, des bébés. Et ça nous concerne, nous aussi, Français. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, il y a les terroristes. Il y a Hakimi, il y a Boko Haram qui n'est pas très loin aussi, il y a Daesh, l'État islamique. Et en fait, les Touaregs vous ont dit, ils ne vont pas rejoindre ces groupes terroristes pour la religion. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie, qu'il n'y a pas d'économie, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a rien à faire et qu'ils sont perdus et que pour vivre, ils sont capables des pires atrocités. Mais si on leur donne des entreprises, de l'argent, des puits, des choses à construire, ils ne vont pas rejoindre ces groupes terroristes.
Mais c'est une évidence. Le problème, il n'est pas politique. Mohamed vous le dira, tous les Touaregs vous diront, notre problème, il est économique. Tous ces jeunes désœuvrés, quand il y a des terroristes ou des trafiquants de drogue qui leur proposent de l'argent pour emmener de la drogue de l'autre côté du désert ou pour rejoindre les groupes de Daesh, ils y vont, ils n'ont rien à faire. Si on leur donne une activité, si on leur donne la fierté de réussir quelque chose, ces jeunes, ils partent pas, ils restent chez eux et ils n'ont absolument pas la tentation de se marginaliser dans le terrorisme ou dans la drogue.
On est fiers de vous, Mohamed Iksa, grand chef Touareg du Nord Niger. Et vous, Christelle Pernet, c'est incroyable ce que vous faites. Vous avez permis à 100 000 personnes, une ville entière, d'avoir de l'eau, de se relancer dans la vie. Pour que les auditeurs comprennent, 100 000 personnes, c'est toute la ville de Nancy, par exemple. rien. Grâce à vous, toute Nancy a de l'eau. On était très fiers de vous avoir aujourd'hui sur RTL et de vous écouter. Parce que c'est beau ce que vous faites et vous permettez aussi au monde d'aller un petit peu mieux.
Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci infiniment.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité tous les dimanches à 13h sur RTL. Et tous les jours, vous retrouvez Marion Calais dans le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, Catherine Lara est l'invitée de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show, RTL, il est 14h.